Si je me fie aux courriels et aux textos qui sont entrés pendant la pause, vous allez être plus nombreux, effectivement, cet été, à jardiner dans vos cours. Puis de plus en plus aussi, vous allez congeler pas mal plus de pièces de viande dans les prochaines semaines. C'est intéressant de voir ces nouvelles tendances, ces impacts de la COVID dont on parle peu. On va maintenant parler d'un blogueur qui, en fin de semaine, s'en est pris à moi parce qu'il n'a pas aimé que j'utilise le mot « déserteur » pour parler des éducatrices en CPE et des professeurs qui ne veulent pas entrer au travail ce matin. Il est blogueur, donc son nom de blogueur, c'est Jonathan Le Prof, mais son vrai nom, c'est Jonathan Saint-Pierre, puis il est enseignant au secondaire à Rouyn-Noranda. Bonjour, Monsieur Saint-Pierre.
Bonjour, Monsieur Diam. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de votre ouverture d'esprit pour qu'on puisse avoir cette discussion en ce moment à votre émission de radio.
Ben moi, j'ai jamais eu peur des débats. Je me suis rarement défilé. Puis je trouve qu'au contraire, l'échange d'idées au Québec est très positif. Puis qu'on est une société qui a de la misère avec ça. On appelle ça de la chicane. Moi, j'appelle ça des débats. J'ai une vision différente de vous. Expliquez-moi d'abord qu'est-ce que vous me reprochez quand je dis que les éducatrices et les professeurs de primaire qui ne se présentent pas au travail ce matin sont des déserteurs. Exprimez-moi en quoi j'ai tort selon vous.
Ben en fait, moi, je pense que c'est surtout une question de ce qui s'est passé dans les derniers mois. Là, depuis deux mois, le gouvernement, la santé publique, tout le monde nous fait des messages en nous disant à quel point c'est dangereux, à quel point la distanciation, à quel point il y a plein de choses. Et là, du jour au lendemain, c'est comme si toutes ces consignes-là étaient tombées à l'eau. Puis là, on disait, arrangez-vous maintenant avec les enfants, avec les plus jeunes. Vous êtes capables. On va vous donner le strict minimum. Puis comme ça, tout est bien qui finit bien. Puis tout est beau, tout est parfait. Fait que je pense que la crainte des gens est justifiée parce que est-ce qu'on va vraiment leur donner les outils qu'ils ont besoin présentement? On sait que le système d'éducation il est sous-financé. Donc, les profs, je pense que c'est légitime qu'ils craignent qu'il manque de désinfectants, qu'il manque de personnel, qu'il manque de différents trucs parce que c'était déjà comme ça avant la crise. Donc, de penser qu'on s'en va dans une situation particulière, qui est un retour en classe plus ou moins préparé, là, avec des règles qui sont quand même assez particulières. Je pense que c'est normal que ces gens-là aient peur aujourd'hui, puis ils n'aient peut-être pas toutes les réponses à leurs questions avant d'entrer au travail.
Mais je ferais juste remarquer là, que les profs ont eu deux mois pour penser à ça, leur retour au travail. Là. Il y a des gens qui travaillent dans l'industrie de l'alimentation. Eux autres, ils n'ont pas eu 24 heures, puis ils ont tous rentré ou à peu près. Puis ils étaient tous pas mal plus à risque qu'un prof. Et si on pensait comme les profs pensent, comme le syndicat des profs en particulier pense présentement, ben on serait tous morts de faim. Là. Si tout le monde décidait qu'ils restent chez eux parce qu'ils ont peur puis qu'ils écoutent leur anxiété plutôt que de vouloir se retrousser les manches et aider la société, là, on serait tous morts de faim au moment où on se parle.
Là. Mais en même temps, le problème, c'est que ces gens-là gèrent pas des enfants à longueur de journée. C'est des éducatrices en CPE qui gardent des enfants entre 0 et 5 ans ou des profs du primaire qui vont garder, parce que c'est littéralement ça que les gens vont faire présentement, ils vont garder des enfants de 6 à 11 ans. C'est pas la même gestion que de travailler dans un centre d'alimentation. Et là, j'enlève vraiment rien aux gens qui sont là. Vraiment, ils font un super travail. J'ai tout mon respect pour eux. Mais c'est des choses, je pense qu'ils comprennent.
Il y en a un, la fille qui est dans un CPE, là, elle a 15 enfants avec elle. Puis elle n'a jamais plus, jamais moins. Là. C'est ces 15 enfants-là. Le gars qui est à l'épicerie, qui est à la caisse, là, il en voit passer des centaines d'une journée. Là. Le risque de contamination, il est multiplié par son numéro de téléphone, lui-là. Là.
Oui, mais en même temps, un adulte, en théorie, est censé suivre les règles de la santé publique, tandis qu'un enfant, est-ce qu'on peut vraiment le faire faire toutes les
procédures? J'ai plus confiance, Jonathan, aux enfants qu'aux parents. Je les regardais aller en fin de semaine. Mais on vous dit qu'il y a des enfants qui ont l'air d'être pas mal plus obéissants que les parents, là.
Ouais, ça, j'avoue que c'est un bon argument, mais tu sais, reste qu'au final, c'est plus difficile à mettre en place, justement, imposer des limites de distanciation, des limites d'hygiène à des plus jeunes, à des enfants, tandis qu'à des adultes, en théorie, même si l'on dit que c'est peut-être un peu le contraire, c'est quand même pas évident. Là. C'est surtout parce que les gens ont pas eu les réponses à leurs questions avant de commencer à travailler ce matin. Il y a eu beaucoup d'interrogations, il y a eu beaucoup de questions soulevées, beaucoup de changements de discours que là, certaines catégories pouvaient, d'autres pouvaient plus. Fait que tu penses que les gens sont perdus un peu dans tout ça, dans la situation.
Mais en même temps, on sait des choses. Là. Plus ça va, plus on sait, on connaît la maladie, puis on commence à comprendre ce qui se passe. On voit que vraiment cette maladie-là s'attaque d'abord et avant tout à nos aînés. On voit qu'il y a aucun enfant en bas de 30 ans, puis enfin, c'est même des adultes, là, mais il n'y a aucun enfant qui est décédé de la COVID. On voit que leur charge virale est très faible. Il y a même des études qui commencent à dire qu'ils sont pas... Oui, ils peuvent être porteurs, mais ils peuvent pas le transmettre tellement c'est faible chez eux. Donc, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de peur, beaucoup d'anxiété de la part de certains profs, là, mais malheureusement, la science n'est pas beaucoup avec eux ces jours-ci, là.
Mais la science aussi est quand même assez incomplète parce que ça fait pas si longtemps que ça qu'on connaît le virus. T'sais, les arguments que tu viens d'apporter, Eric, sont super valables. Mais est-ce que sur le long terme, c'est des choses qui vont être vraies? Est-ce que parce que justement les profs ont été déconfinés avec leurs élèves, ça peut amener une deuxième vague? Il y a beaucoup d'interrogations, il y a beaucoup de on le sait pas, et c'est ce qui fait peur présentement. L'incertitude, c'est la première cause d'anxiété. Et là, dans le fond, personne n'a été capable d'être convaincant. Le ministre de l'Éducation n'a pas été capable de nous convaincre, le directeur de la santé publique non plus, M. Legault non plus. Donc,
mais vous avez peur de quoi? C'est ça que je me demande à toutes les profs et aux éducatrices. Là, vous êtes avec les clientèles qui sont les moins atteintes, qui sont les moins dangereuses, qui transmettent le moins, puis vous êtes ceux qu'on entend le plus chialer. Expliquez-moi ça.
Je donnais un exemple concret sur ma vie quotidienne. Ma fille est en garderie en milieu familial, oui. Et son éducatrice est âgée de plus de 60 ans. Et si moi, mettons, comme par hasard, je croise quelqu'un qui a la COVID et que, par une raison X, en allant chercher ma fille, je le donne à l'éducatrice de mon enfant, ben je cours la chance de peut-être avoir causé un homicide involontaire en ayant amené la COVID à cette madame-là. Donc, c'est aussi à ce niveau-là, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine scolaire, dans le domaine des CPE, qui sont de plus en plus âgés. Donc, c'est surtout quand les gens ont commencé à dire que les 60-69 ans pouvaient aller travailler sans problème.
Là, il y a un mot qui vient d'être utilisé là, qui me fait un peu sursauter là, quand j'entends homicide. Là. C'est pas un meurtre.
Non, mais c'est une façon de parler. C'est juste que dans le fond, je ne voudrais pas être la personne responsable qui a contaminé quelqu'un de la COVID parce que les règles de déconfinement ont été faites un peu plus rapidement que prévu.
OK. Mais là, dans l'article là, de le blog là, de Jonathan, le prof, on me traite de gérant d'estrade. Moi, je suis un animateur de radio comme tous les commentateurs de l'actualité politique au Québec. Puis mon job, moi, c'est ça. C'est de commenter l'actualité, puis c'est ce que je fais du mieux que je peux, puis au meilleur de mes connaissances tous les jours. En quoi je suis un gérant d'estrade plus que les autres? C'est-tu parce que je m'oppose à vos idées? C'est pourquoi le qualificatif gérant d'estrade?
Ben, c'est qu'en fait, souvent, les commentaires qui ont été faits sur le domaine de l'éducation sont faits par des gens qui sont pas du domaine. C'est que souvent, c'est des visions qui sont externes et c'est des visions qui ont quand même un grand auditoire. Et moi, personnellement, je trouvais que la vision enseignante était pas assez représentée. Donc, c'est un peu pour ça que j'ai utilisé ma plateforme, qui est quand même suivie par 30 000 personnes, pour faire un peu le contrebalancier aux chroniqueurs et aux opinions, justement, parce que...
Mais on n'est pas nombreux à dire que vous êtes des déserteurs. La plupart, ils sont dans le sens des profs puis ils ont peur. Ils sont du côté des COVID anxieux bien plus que du monde qui veut leur retourner travailler.
Ben, c'est un peu pour ça que je m'en suis... je dirais pas que je m'en suis pris, mais que j'ai répondu à votre commentaire, M. Duhem, parce que c'était justement un élément parfait pour justement mettre en contexte ou mettre en situation un vrai débat qu'on a présentement. Okay. Ça a comme été un peu un élément déclencheur qui m'a piqué au vif.
Là, il y a un autre. On pourrait dire comme ça. Parlant d'être piqué au vif, il y a un bout aussi du commentaire, moi, qui m'a piqué au vif. C'est quand on parle de l'aspect, là, c'était quasiment que c'était du sexisme parce que les profs puis les éducatrices, c'est d'abord et avant tout des femmes en grande majorité, puis que c'est elles qui mettent leur vie en jeu. J'ai trouvé ça assez spécial parce qu'habituellement, dans notre société, là, les gens qui mettent leur vie en jeu, c'est des pompiers, des policiers, puis des soldats, puis ils sont extraordinairement plus majoritairement des hommes. Puis quand on regarde les décès liés au travail, c'est toujours les hommes qui sont surreprésentés. Je trouve ça un peu bizarre d'amener un élément là, du féminisme dans ce débat-là. D'où ça sort, cette idée-là?
Ben, c'est qu'en fait, dans la vie de tous les jours, c'est ces gens-là qui vont avoir à prendre le risque de peut-être attraper la COVID. Dans les hôpitaux, on le sait, c'est majoritairement féminin. Dans les écoles, dans les CPE, même dans les centres d'alimentation, c'est majoritairement des femmes qui vont être à la caisse et qui vont courir des risques. Donc, je trouve ça quand même particulier qu'on soit deux hommes qui sont en train de discuter de pourquoi 90% de femmes qui travaillent dans un domaine ne peuvent pas avoir peur d'une certaine situation. C'est comme, je me constate comme un gérant d'estrade, moi aussi présentement, parce que je pense pas avoir tous les éléments, tous les aspects pour avoir une réponse fixe sur la situation qui se passe présentement.
OK. Mais en gérant d'estrade, là, est-ce que je dois comprendre que vous considérez que les femmes sont moins courageuses? C'est-tu pour ça qu'il y a plus de désertion dans ces professions-là que dans l'armée, que les policiers, que les pompiers? C'est ça, là, l'argument?
Non, pas du tout. Je pense que c'est plutôt le contraire. C'est que c'est souvent le discours masculin qui impose des règles à des femmes. Donc, je pense que c'est un peu encore le côté patriarcal du Québec qui ressort parce que ouais. C'est le message qu'on entend.
OK. Je veux aussi comprendre c'est quoi... Quel est l'impact de ça? Parce que moi, j'ai pas de problème. Si quelqu'un est anxieux puis a peur, là, on a le droit d'avoir peur. Tu sais, vivre, c'est prendre des risques, puis il y a des gens qui aiment moins prendre des risques que d'autres. Moi, que quelqu'un veuille pas prendre de risques puis refuse de rentrer travailler parce qu'il ou elle a peur, je m'en fous. Mais c'est pas vrai que ces gens-là vont continuer à être payés 100% plein salaire pour rester chez eux. Au moins, est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Ceux que j'appelle, moi, les déserteurs, ce que vous appelez les peureux, là, est-ce que ces gens-là, s'ils ont choisi de pas venir rentrer au bureau à matin, puis à l'école à matin ou à la garderie à matin, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il faut qu'ils se mettent sur le chômage ou sur la PCU, mais on peut pas continuer à payer plein salaire?
Mais en fait, il aurait fallu que le gouvernement soit clair au début. Le gouvernement, en partant, a dit que les gens qui allaient avoir peur allaient continuer à être payés quand même, que le gouvernement respectait et comprenait. Donc, il y a un double discours qui a été fait. Donc, il y a des gens qui ont peut-être pas pris leur responsabilité dans tout ça. Fait qu'en partant, les gens se sont fait dire une idée, se sont fait avec une idée, et par la suite, se sont fait dire le contraire. Donc, c'est normal qu'il y ait beaucoup de personnes qui aient été déstabilisées parce qu'il a été annoncé par le gouvernement.
Mais en même temps, c'est un peu normal aussi que le discours évolue parce que nos connaissances de la COVID-19 évoluent. Je veux dire, on savait pas il y a 2-3 mois tout ce qu'on sait aujourd'hui au sujet de ce virus-là. Puis c'est facile d'être un gérant d'estrade, pour reprendre une expression que vous aimez bien, puis dire a posteriori, voici ce qui aurait dû être fait il y a 2 mois, ou ce qu'on aurait dû dire au monde pour aux enseignants au départ. Là.
Moi, effectivement, je suis d'accord, mais ce que je crois qui est aussi le plus gros du problème dans tout ça, c'est que malheureusement, quand on a annoncé tout ce qui se passait, quand on a annoncé toutes les règles, ça a été quelque chose d'imposé, qui a été très rapide, et ça a été quelque chose que, même si les gens ont eu 2 mois pour se préparer, même si les gens ont eu 2 mois pour y penser, c'est quand même de l'inconnu, c'est quand même quelque chose qu'on n'a jamais vu pour personne. Donc, je pense que c'est des craintes qui sont légitimes. Je pense que...
Mais en même temps, c'est justement pour ça que le gouvernement a annoncé un plan de déconfinement graduel. Puis c'est justement pour ça qu'on veut pas attendre que toutes les écoles, autant primaire, secondaire, cégep qu'université, ouvrent au mois de septembre. Parce que, premièrement, il risque d'y avoir d'autres types de virus. Deuxièmement, on va être encore moins immunisés. Puis là, on verra pas comment la rentrée s'est faite, comment le respect de la distanciation sociale pouvait se faire. Le fait d'y aller graduellement puis d'ouvrir les écoles à compter d'aujourd'hui, vous trouvez pas que c'est une bonne idée dans ce sens-là, dans le sens d'échelonner ça dans le temps?
À ce niveau-là, je suis d'accord, mais je pense que ce qui a été le plus mal pris par les gens, c'est le petit côté hypocrite de l'annonce du déconfinement. C'est qu'on a essayé de vanter le fait qu'on voulait renvoyer les enfants à l'école, mais en fait, c'est qu'on a besoin de garder des enfants pour que les parents puissent retourner travailler. Donc,
mais un n'empêche pas l'autre, là.
Mais je pense que ça aurait été le fun que le gouvernement le dise publiquement que oui, on sait que vous avez peur, mais pour les raisons économiques suivantes, on a besoin de la réouverture des écoles parce que on a besoin d'économie, on a besoin de faire fonctionner un système, mais on l'a pas dit. On a vraiment essayé de cacher cet aspect-là et je pense que les gens le trouvent peut-être hypocrite à ce niveau-là.
Mais en même temps, les enfants, là, j'aimerais ça savoir c'est quoi le pourcentage des enfants qui veulent retourner à l'école. J'ai l'impression qu'il y en avait une très forte majorité. En tout cas, si je me fie aux enfants sur ma rue à matin, là, qui fréquentent l'école en Hébert, là, je peux vous dire qu'ils étaient tous contents. Puis d'ailleurs, dans la région de Québec, aujourd'hui, la bonne nouvelle, là, c'est que le ministère de l'Éducation pensait qu'il y en aurait juste 1 sur 2 qui reviendrait à l'école, puis il y en a entre 70, 75, 80% dépendamment de la commission scolaire. Il y a beaucoup plus de parents puis d'enfants qui ont décidé de retourner à l'école ce matin que ce qu'on avait anticipé au départ.
Puis moi, je vais faire un petit commentaire par rapport à ça. Je suis convaincu que toutes les enseignantes et toutes les éducatrices de CPE qui sont là présentement vont faire un super bon travail, un travail très professionnel. Malgré la crainte, malgré tout ce qu'on dit, malgré tout ce qui se passe, j'ai entièrement confiance aux gens qui sont sur le terrain tous les jours, puis je suis convaincu que les jeunes vont être en bonne main aussi.
Mais en même temps, je pense que les enseignants avaient aussi hâte. Le discours syndical, c'est pas vrai qu'il représente tous les enseignants. J'ai parlé, puis j'ai reçu beaucoup de messages d'enseignants qui avaient très hâte de retrouver les enfants, puis qui avaient bien hâte de se lever à matin et d'aller travailler. Là.
Ben, on s'ennuie de notre travail, on aime être enseignant. T'sais, moi-même, là, je présente au secondaire, je donne du téléenseignement, c'est sûr que c'est pas la même chose, mais au moins, j'ai encore un contact avec mes jeunes parce que c'est ce qui nous motive à tous les jours. Donc, pandémie ou non, on aime notre travail.
Jonathan Saint-Pierre, alias Jonathan le prof, merci beaucoup d'avoir accepté notre échange aujourd'hui. Puis ceux qui veulent aller lire votre blog, c'est Jonathan le prof, ils peuvent trouver ça facilement sur les réseaux sociaux. Merci de nous avoir jasé.
Hey, merci à toi, Eric. Bonne fin de journée.
Bye.